Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche que je vais consacrer au mobilier domestique traditionnel de la Basse-Marche. Ce sera notre 198e émission et notre 146e chronique. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants: La vie quotidienne de nos pères, un recueil de Louis Peignot, La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse-Marche d'Albert Gourceau, Mémoire d'un village limousin blond de Claude Dadoun, un poème de Maurice Rollina extrait de Dans les Brandes, Une enfance de Jules Marouzeau, La maison, le village et le paysan limousin de Maurice Robert, deux extraits de Pleine terre et du voyage rustique de Charles Sylvestre, et un poème de Paul Lavergne extrait de Vacillante chandelle.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.
Le mobilier domestique traditionnel de la Basse-Marche est, vu la pauvreté du pays, relativement modeste. De plus, les artisans peu nombreux sont si peu experts que souvent on n'ose leur confier que les plus grossiers travaux. Et ils sont souvent mauvais ouvriers, au point que l'un travaille le bois sans mériter le nom de charpentier. Aussi, dans bien des inventaires après décès, on peut très souvent lire que les quelques meubles sont mi-usés, mauvais, fort anciens, propres à mettre au feu ou presque pourris. Il faut dire, nous allons le voir, que l'appartement se limite en règle générale à une pièce unique. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au mobilier domestique traditionnel de la Basse-Marche et aussi aux différents ustensiles, en particulier aux ustensiles de cuisine. Une bonne façon de dresser une liste du mobilier domestique traditionnel de la Basse-Marche, c'est de s'intéresser à ce que les métayers entassaient dans les charrettes lors de leur déménagement. Voici un texte cité par Louis Peignot dans son ouvrage « La vie quotidienne de nos pères ». Le père allait devant les bœufs, se retournant de temps en temps pour leur crier « Ah ah !» et les piquer de l'aiguillon. Sur le devant de la charrette, on avait fait une place où était le grand-père infirme. Une table longue à pieds massifs, deux bancs, un vieux cabinet de cerisier noirci par la fumée, une mets, deux vieux châssis piqués par les vers, deux ou trois chaises à moitié dépaillées, un dévidoir fait à coups de hache, une barrique vide, tout cela s'entassait sur la charrette. Par-dessus étaient jetées les paillasses de grosses toiles rapiécées de morceaux différents et de deux vieilles couettes jaunies. Deux seaux se balançaient sous la charrette, avec des paniers où il y avait des bouteilles vides, des pelotons de fil et d'autres où gisaient des poules, les pattes liées. Aux ridelles étaient accrochées des affaires, une houle pour les châtaignes, une tourtière à faire les mielets sous, une marmite, une poêle à longue queue et plusieurs paires de sabots usés. Dans les endroits où le chargement laissait des vides, on avait placé un sac de farine à demi plein, quelques pots de terre, des hardes, des chiffons et deux tourtes de pain noir. À la cime de ce pilot de meubles et d'affaires étaient assis sur les paillasses deux enfants de 4 et de 7 ans.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Une autre façon de se faire une idée de ce pauvre mobilier, c'est d'examiner les inventaires après décès. Voici un exemple cité par Maurice Robert dans son ouvrage « La maison, le village et le paysan limousin ». Voici ce que laisse un journalier au moment de la Révolution. une crémaillère en fer à crochet plus qu'à demi usée, un seau en bois avec son godet, un pot de fonte, une cuillère de cuivre rouge à tremper la soupe, un poêlon à demi usé, une galetière presque usée, un chauderon de cuivre rouge à demi usé, 5 écuelles de terre, 3 cuillères d'étain commun, 2 assiettes de terre, 2 pots de terre, une mauvaise ruche de paille à mettre les grains, un grand coffre tout vermoulu sans serrure, une mauvaise table de grosse charpente, un banc, 3 selles de bois, une mauvaise mets à pétrir d'une seule pièce en grosse charpente, 2 pelles à bois à mettre au four. J'arrête là, car la suite de l'inventaire concerne les vêtements. Nous avons déjà consacré une émission à la maison rurale traditionnelle de la Basse-Marche et constaté alors que pour le logement des hommes, elle se composait d'une pièce principale quasi unique qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger, de salle de séjour, voire d'atelier, mais aussi très souvent de chambre à coucher et encore de salle de bain. Voici ce que nous en dit Albert Gourceau. Dans cette pièce basse, au mur noirci par la fumée qu'était la salle commune, l'impression que l'on ressentait était celle d'une pauvreté extrême et d'une grande simplicité de vie. Presque pas de meubles, et des meubles lourds et massifs venant tout droit de l'artisan du village. Aucun style, aucune recherche d'élégance, aucun souci de beauté. Et Albert Gourceau nous donne ensuite quelques explications sur le mobilier de cette pièce principale. La table, de forme rectangulaire, sert pour la consommation des repas, mais aussi pour tous les autres travaux. Elle est accompagnée de 2 bancs sans dossier. On trouve encore quelques chaises en jonc tressé ou en paille. Les tabourets à 3 pieds, le fauteuil coffre à sel installé près de l'âtre, de façon à garder le sel au sec. On trouve encore une mets, c'est une caisse en bois sur pattes qui sert au pétrissage de la farine, mais que l'on utilise en temps ordinaire comme garde-manger. Il y a bien sûr presque toujours une horloge à poids, un râtelier à pain, un berceau d'enfant. Et Albert Gourceau ajoute un élément important, presque essentiel du mobilier, et cet élément, c'est le clou. Notons enfin que l'on suspend tout un tas de choses au plafond. Le râtelier à pain, le panier à fromage, là, l'instrument essentiel, c'est le clou. Pour accrocher des morceaux de lard, une vessie de saindoux, un jambon, un chapelet d'ail et d'oignons, des herbes pour les tisanes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Le Voyage rustique, Charles Sylvestre est lui aussi très précis sur la description de cette salle commune. Les maisons paysannes sont bâties sur un même modèle dont le moule est cassé depuis longtemps. Basses et sans étage, leur toit en grosse tuile nattée fait penser à quelques couvercles bien trop lourds pour le pot qu'ils couvriraient. Elles abritent une salle sans plancher, aux poutres mal équarries, à la fois cuisine et chambre à coucher. Le lit, à rideau de cotonnade fanée, est placé à une enjambée du vaisselier et du coffre à pétrir. L'horloge à balancier fleuri toque fort dans sa boîte couleur de violon. Il y a sur la commode des coquillages, des brimborions de fer blanc et de porcelaine qui feraient le délice des nègres. Quelques photographies qui rappelle une noce. La fenêtre est étroite et donne une lumière dure et comme étranglée. On accroche, dans l'embrasure, la cage de la tourterelle. Au fond, s'ouvre un réduit où s'entassent des hardes, des outils rouillés. Résumons le contenu de cette pièce avec cet autre texte de Charles Sylvestre. Il nous décrit la maison de Fanchette. Dans sa chaumière, il y a un coffre à pétrir le pain, une commode en cerisier rouge et dessus des verres de couleur gagnés à la roue des frairies. La vitre nue d'une seule fenêtre est étroite comme un cadran. Tantôt noire ou bleue, elle est toute d'or quand le soleil vient la toucher. Au milieu de la cheminée, sur la tablette, se dresse un cadre de peluche enfumé. Voici enfin la description de la pièce principale d'une maison de maître, cette fois que nous fait Charles Sylvestre dans Pleine Terre. Il me fait entrer dans la salle où brûle un feu de bois sous l'auvent d'une profonde cheminée. Elle est pavée de petites pierres. À mi-hauteur des murailles, elle est habillée de boiseries en vieux chêne. Au milieu, il y a une longue table et, face aux fenêtres, un dressoir tout réjoui d'assiettes et de plats en faïence aux belles formes. Une horloge dont le balancier va et vient derrière une lucarne vitrée.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Claude Dahadoun, dans son ouvrage « Mémoire d'un village limousin, Blon, 1789-1795 », dresse, lui, un véritable inventaire de ce mobilier de la pièce commune. Au milieu de la première pièce, au milieu de la salle, une table en madrier de châtaignier massif est encadrée par deux petits bancs à quatre piquets. Au-dessus de l'épaisse table est suspendu un râtelier pour entreposer le pain que l'on appelle à Blon une échelle à pain. Plus loin, une grande claie en bois où sèchent les fromages et parfois des quartiers de lard est accrochée au plafond. C'est dans cette claie que l'on dépose aussi les paquets de laine blanchie et de chanvre. On conserve le sel dans un petit coffre à dossier qui sert de siège. On l'appelle salière et il tient une place de choix auprès du feu avec le classique archeban. Face à la table, contre le mur, un vaisselier à trois tiroirs sans ferrure. Il contient les ustensiles en cuivre et des pots de terre pour garder le lait. Tout autour de la pièce, le long des murs, sont alignés successivement un vieux coffre, un petit dévidoir sur un trépied de bois, une vieille arche ou mets à faire le pain qui contient une petite planche en bois pour rouler. Des chaises de village en paille sont éparpillées dans la pièce. En fonction de leur qualité, on classifie les meubles en façon village ou façon menuiserie. Les meubles de valeur sont fabriqués par des menuisiers ou des ébénistes. Et il ajoute que le mobilier ne varie guère d'une chaumière à l'autre. Nous reviendrons dans un instant à l'éclairage, à la cheminée, à la mets, à l'horloge, à la chambre et au lit. Nous allons nous intéresser maintenant aux lieux humides de cette pièce, à la bassie et puis ensuite à la vaisselle. Restons avec Claude Dahadoun qui, dans son ouvrage sur Blon, nous dresse un inventaire de la vaisselle rurale et de l'évier ou bassie. À droite de la porte, un évier en granit avec un écoulement en pointe vers l'extérieur est creusé dans une niche. Sous cette pierre d'évier, on range les récipients. Un siot en bois dans lequel trempe un godet à boire, la couade. Un siot en fer pour le lait et une cruche en terre. Siot, c'est ainsi que l'on prononce le mot seau comme marteau qui se dit populairement martiaux. À côté de cet évier, une paillasse en carreaux de terre cuite est remplie des cendres de la cheminée pour laver les assiettes et même le linge. Si on ouvre les portes des armoires ou les tiroirs, on découvre maints instruments de cuisine. Un couteau à cuisiner, un couteau en forme de serpe, des cuillères en cuivre pour tremper la soupe, des petits plats et des assiettes à manger la soupe en étain, des écuelles de terre et des petites fourchettes en fer, quelques récipients aussi, un petit poêlon en cuivre, des pots de fer, des cruches en terre, une bouteille en verre, une chopine en verre fort. À même le sol, un tisanier et un grand potet, tous deux en terre du pays. Et Claude Dahadoun d'ajouter, à travers ces descriptions, on réalise la rareté de certaines matières, le verre notamment. Jamais plus d'une bouteille en verre par foyer. Il ajoute que dans un coin de la salle traînent plusieurs palisses à faire le pain.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant les ustensiles de cuisine, voici ce qu'ajoute Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. Parmi les ustensiles de cuisine, il y a des marmites, des chaudrons que l'on pouvait suspendre à la crémaillère. D'autres possédaient trois pieds. Il était alors possible de les installer sur l'aire du foyer. Dans ce foyer, il y a encore les chenets, les trois pattes, les pincettes. On trouve encore des platines à galettes, des brasières, des poêles, dont la poêle percée pour cuire les châtaignes, des casseroles, des pots, des toupies. On trouve aussi des objets en osier tressé ou en éclisse de châtaignier, comme des palisses, des corbeilles et des paniers de toutes sortes. Et encore des tamis, des couteaux, des hachoirs, des entonnoirs.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant la cheminée, nous avons déjà présenté une émission intitulée « Autour de la cheminée ». Voici donc aujourd'hui simplement un inventaire de ce qu'on trouve dans la cheminée, dans une maison de Blon. Une grande houle en fonte de forge de 6 seillées, un pot pour cuire les châtaignes d'une seillée et demie, un pot pour faire la soupe d'une seillée. Tous ces ustensiles sont accrochés à la chaîne de la crémaillère. À même le feu, on dépose les poêles de toutes sortes, la padella ou poêle à frire, le pot d'erzo troué pour rôtir les châtaignes, une poêle en fer et une galetière latine en fonte pour faire revenir les galettes sont supportées par deux chenets dans le foyer. Sur la poutre du manteau de la cheminée sont rangés un petit chandelier en broche de fer, un petit chenail en cuivre, c'est-à-dire une petite lampe que l'on appelle ailleurs chaleuil. À leur côté trône un canon de fusil, parfois en mauvais état, sans aucune garniture.
Elle a sonné les 400 coups, la pendule de nos baptêmes, elle a prédit le casse-cou sur un vase de chrysanthème. et sans peur des futurs carêmes, des possibles coups de Jarnac. Dans l'enfilade des semaines, on s'enfuit au pas du tic-tac. Dans l'enfilade des semaines, on s'enfuit au pas du tic-tac. Elle a sonné le coup d'état, la pendule de ma poitrine, le jour où j'ai perdu le la, sur la bouche de Colombine. Elle a sonné le coup de grâce, elle a sonné le coup du sort, le jour pour d'autres impasses, Colombine a quitté le port. Le jour pour d'autres impasses, Colombine a quitté le port.
Bien des maisons rurales possèdent une horloge à poids. Voici deux poèmes à propos de cette horloge. Le premier est de Maurice Rollinat et le second de Paul Lavergne. De Maurice Rollinat, l'horloge est extrait de son recueil « Dans les brandes ». À son tic-tac mélancolique, la fermière écosse des pois. La nuit noire comme la poix s'avance d'un pas diabolique. Cependant, qu'un chat famélique guigne ses deux énormes pois, à son tic-tac mélancolique, la fermière écosse des pois. Quand son tintement métallique vibre dans sa cage de bois, je frissonne un peu, mais je bois l'extase douce et bucolique à son tic-tac mélancolique. Un poème de Paul Lavergne, La pendule, extrait de Vacillante chandelle. En robe vernie, la pendule s'amuse à grignoter le temps, comme une souris minuscule qui ragote du bout des dents. En robe de bois, la pendule ne fait que mesurer le temps de son balancier qui ondule avec un doux crépitement. Les heures et les minutes passent, ainsi appelle-t-on le temps. Est-ce le temps ou bien l'espace qui conditionne les vivants ? Que ce soit le temps ou l'espace, inéluctable est le moment où certains jours l'homme trépasse et retombe dans le néant. Toujours tic-tacant, la pendule n'a fait que mesurer du vent, de son balancier qui ondule avec un doux crépitement.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
La plupart des maisons rurales possédaient également une mets. La mets, c'est donc un coffre allongé en bois monté sur quatre pieds. Très souvent, on l'appelait arche. Ce coffre possède un couvercle et sert essentiellement à pétrir la pâte pour fabriquer du pain. Lorsque l'on s'est mis à acheter le pain chez le boulanger, la mets a servi de réserve à vaisselle et à ustensiles, voire de garde-manger. La mets servait encore de siège, un siège un peu élevé. Concernant l'éclairage, outre la cheminée qui joue un rôle essentiel et les bougeoirs, on trouve plusieurs types de lampes. Des chalailles ou chaleuils qui sont des lampes à huile et à mèche, des lampes à pétrole, des lampes à essence dites lampes pigeons et des lampes tempêtes que l'on utilise aussi pour se rendre à l'extérieur. Quant à la chambre, Claude Dahadoun nous explique qu'Ablon, 3 ou 4 lits, quelques coffres en bois constituent la base du mobilier qui ne varie guère d'une chaumière à l'autre. Cette chambre renferme les modestes linges et vêtements des occupants, les hardes, comme on désigne alors les vêtements de chaque jour, blouses, vieux bas usagés, chemises rapiécées, sont suspendus à des pitons de bois enfoncés dans les interstices des murs. On range dans les coffres les habits neufs et ceux que l'on réserve aux grandes occasions. Voici ce qu'Albert Gourceau écrit à propos des lits et de la chambre. Dans les maisons sans étage, ne possédant qu'une seule pièce, un ou deux lits étaient rangés tout au fond de cette pièce et on en trouvait parfois un troisième dans une chambre que l'on avait aménagée dans l'étable pour le journalier. La plupart de ces lits sont dits à la duchesse, car il y a un ciel de lit suspendu aux poutres du plafond. Cela permet d'isoler les dormeurs du reste de la pièce et de protéger des insectes. Il n'y a pas de sommier, la paillasse est en grosse toile, garnie de paille ou de balles de blé ou de maïs. Les draps sont en chanvre, les traversins, les lits, les édredons sont garnis de plumes d'oie. On trouve quelques coffres pour ranger le linge et les vêtements et des commodes en merisier ou en cerisier. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai consacrée au mobilier domestique traditionnel de la Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Louis Peignot, d'Albert Gourceau, de Claude Dahadoun, de Maurice Rollina, de Jules Marouzeau, de Maurice Robert, de Charles Sylvestre et de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, Marc et André, et aux compositeurs Donizetti, Jean-Sébastien Bach, Jules Massenet, Gabriel Fauré et Éric Satie que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.